Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous. C'est une maladie fréquente mais encore méconnue qui suscite fantasmes et préjugés. Une maladie souvent associée à tort, à une maladie mentale et parfois même à de la sorcellerie. Mais l'épilepsie, notre sujet du jour, est en réalité un trouble neurologique, une affection chronique du cerveau qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par des crises récurrentes qui sont la manifestation physique de décharges électriques soudaines dans différentes parties du cerveau. Alors nous avons tous à l'esprit l'image très spectaculaire de la crise d'épilepsie avec perte de connaissance et convulsions, mais cette manifestation n'est pas la plus fréquente, loin de là. Généralement, elle se caractérise par d'autres formes, mais lesquelles ? Est-il possible d'anticiper ces crises ? Si l'épilepsie peut être traitée dans 70% des cas, les malades et leurs familles restent souvent confrontés à la stigmatisation. Alors, quels sont les traitements existants ? Comment composer avec cette maladie dans la vie de tous les jours et éviter toute forme de discrimination? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le professeur Mustapha Ndiaye, neuropédiatre dans le service de neurologie de l'hôpital FAN à Dakar, président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie et président de la Société sénégalaise de neurologie. Et à la fin de cette émission, eh bien, nous retrouverons le docteur Nicolas Barizien, chef du service de réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Foch de Suresnes, c'est en région parisienne, pour parler du programme Réhab Covid, une consultation pour prendre en charge les malades du Covid-19 qui souffrent encore de symptômes plusieurs semaines après leur guérison. Voilà pour le programme Priorité Santé. Bienvenue à tous.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Mustapha Ndiaye, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Première question évidemment liée à l'actualité. Quel a été l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le suivi et la prise en charge de vos patients, professeur?
Fondamentalement, en dehors du contexte général, il n'y a pas eu d'impact direct de la maladie Covid-19 sur la situation de la maladie. Mais il faut dire qu'il y a eu une psychose générale au niveau de la population qui font que, par exemple, depuis le début de la pandémie, les populations fréquentent de moins en moins les structures hospitalières. La conséquence, c'est que certains épileptiques ne bénéficient plus du suivi régulier qu'ils devaient avoir, ce qui, bien entendu, peut impacter sur l'équilibre de leur maladie et avoir des conséquences fâcheuses.
Oui, donc il y a quand même eu un impact. Et concernant le diagnostic, est-ce que du coup, il y a eu des retards de diagnostic, du coup?
Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Depuis 3 mois, 4 mois, quand même, il y a un déficit de fréquentation des structures hospitalières avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer dans le diagnostic et le suivi des malades épileptiques.
Alors, l'épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique, la plus fréquente après la migraine. Pourtant, elle reste méconnue et l'objet de fausses croyances, encore aujourd'hui, en 2020. Hein. Comment l'expliquez-vous, ça?
C'est lié à l'histoire et à la perception que nos populations ont de leur environnement et de certaines affections, qui font que, dans les sociétés africaines, en particulier chez nous, l'épilepsie a été perçu et encore perçu dans certaines localités comme une affection surnaturelle, comme le fait d'une inconduite ou bien d'une sanction divine. Mais de plus en plus, il faut dire que il y a une mutation dans les perceptions, en particulier dans les centres urbains et même en périphérie, du fait de la mobilisation des professionnels de la santé, en particulier des neurologues, des psychiatres et des pédiatres, qui depuis plus de 20 ans, dans un pays comme le Sénégal et un peu partout en Afrique, ont mis en place une ligue contre l'épilepsie dont la mission principale est justement d'aller contre ces croyances par une meilleure information du public, par un contact plus direct avec les populations, par un partage de nos expériences, de nos vécus, mais également de la réalité de la maladie. Ce qui fait que de plus en plus, au Sénégal en tout cas, et un peu partout dans les pays africains, il y a un changement de perception et les populations de plus en plus fréquentent les structures hospitalières parce que convaincues que l'épilepsie est une maladie neurologique et qu'elle sera prise en charge dans les structures hospitalières et non pas ailleurs.
Ouais, c'est une très bonne chose. Alors on parle d'épilepsie au singulier, alors qu'on devrait dire les épilepsies au pluriel, tant les formes de la maladie et les traitements sont divers. Expliquez-nous un petit peu, professeur, ces différentes formes et dites-nous quelles sont les formes les plus fréquentes de la maladie.
C'est le public qui parle d'épilepsie au singulier, mais les professionnels de la santé, en particulier les neurologues, savent que l'épilepsie est quelque chose de multiformes, de divers. C'est une maladie neurologique, certes, mais ses manifestations sont multiples, les causes sont multiples, ce qui fait que la prise en charge peut varier d'un malade à un autre. Et cela est lié au caractère de la maladie, parce que s'il s'agit d'un dysfonctionnement neurologique, ce dysfonctionnement neurologique, selon le lieu du dysfonctionnement, peut avoir des manifestations qui peut varier d'un patient à un autre. Le grand public connaît les manifestations, les convulsions. Tout le monde a peut-être une fois rencontré dans sa vie un patient qui fait des convulsions.
Mais avec les yeux révulsés, qui avale sa langue ou des choses comme ça?
Effectivement, mais ce n'est pas la manifestation, la seule manifestation, ce n'est même pas la manifestation la plus fréquente, même si elle est la plus connue parce qu'elle est la plus fréquente. Il y a d'autres manifestations en termes de rupture de contact, en termes de troubles du comportement, en termes de manifestations sensibles. Bref, il y a une grande diversité des manifestations, ce qui fait que dans notre communication, nous disons à l'égard des personnels de santé, que ce soit des médecins, des paramédicaux, mais également à l'égard des populations, que chaque fois qu'une manifestation est stéréotypée, chaque fois qu'une manifestation se répète suivant le même mode, que chaque fois qu'une manifestation a un début et une fin brusque, il faut penser entre autres à l'épilepsie et aller voir son médecin qui pourra déblayer le terrain et pouvoir faire la part des choses.
Mais est-ce qu'il y a des formes plus rares et donc moins connues du corps médical?
Bien avant, c'est ce que j'ai dit tantôt, il y a des formes non convulsives, les formes non convulsives, telles que les absences, qu'on appelle ou encore rupture de contact, telles que des troubles comportement paroxystiques, telles que des manifestations sensitives sont très peu connues des professionnels de la santé, en particulier de ceux qui ne sont pas des neurologues. Mais évidemment, c'est notre devoir à nous, neurologues, de travailler à mieux partager cette maladie, notamment ce que ça représente, ces manifestations. Ce qui fait qu'à Dakar, par exemple, pendant longtemps, avant la création de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, le programme, le volume horaire consacré à l'épilepsie durant le cursus des étudiants était de 2 heures. Avec la création de la Ligue, on a multiplié par 4 le volume horaire consacré à l'épilepsie. Ici, ajoute, depuis une dizaine d'années, on a créé au niveau de l'Université de Dakar un diplôme d'université d'épileptologie dont la fonction, justement, c'est de former des praticiens médicaux, mais également des médecins, dans une moindre mesure des paramédicaux à l'épilepsie pour mieux faire avancer le combat que nous avons contre cette maladie.
Est-ce que ces différentes formes d'épilepsie peuvent toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, ou y a-t-il des facteurs favorisants et des personnes plus à risque?
L'épilepsie peut toucher tous les âges. Même si c'est une manifestation qui est plus fréquente, cette maladie est plus fréquente chez l'enfant. C'est lié au fait que les principales causes de l'épilepsie sont des anomalies, en tout cas chez nous, des anomalies de la grossesse et de l'accouchement, des infections du système nerveux et des traumatismes qui touchent prioritairement les enfants. Mais c'est une affection de tous les âges.
Et justement, je pensais qu'on ne connaissait pas toutes les causes de la maladie. Et là, vous venez d'en citer certaines. Est-ce que ça, c'est régulier ou dans certains cas, il est impossible de déterminer la cause précise de la maladie?
Il peut arriver des situations où on n'arrive pas à identifier la cause. Mais dans la grande majorité des cas, si l'interrogatoire se fait bien, si l'examen physique se fait bien, si les investigations nécessaires sont faites, on arrive à identifier une étiologie dans la grande majorité des cas.
Alors on a des questions hein, via Facebook et des auditeurs qui aimeraient vous poser des questions. On a Séni qui vous demande est-ce que l'épilepsie est une maladie contagieuse, professeur ?
Non, l'épilepsie n'est pas contagieuse.
Et alors,
ni
eux...
par la bave, ni par les urines.
Bien, ben ça c'est fait, très bonne nouvelle. Eudes qui vous demande, est-ce que la consommation régulière de nicotine est-elle une cause de l'épilepsie ?
Non, il faut savoir que les drogues d'une manière générale peuvent être cause d'épilepsie ou peuvent être un facteur déclenchant, d'une manière générale. Maintenant, le simple fait de fumer du tabac, de consommer du tabac, sans pour autant qu'on soit prédisposé, ne peut pas être incriminé. Donc, autrement dit, si vous n'êtes pas prédisposé à l'épilepsie, si vous n'avez pas des facteurs étiologiques, le simple fait de fumer ne peut pas être incriminé. Par contre, si vous fumez, c'est un excitant, ça peut perturber le sommeil chez des personnes qui sont prédisposées, qui sont épileptiques. Ça peut induire qu'on dorme mal. Évidemment, cela peut être quelque chose de délétère.
Alors, professeur, nous sommes en ligne avec Juliette, qui est membre d'Épilepsie France, qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour, Juliette.
Bonjour.
Vous avez 29 ans aujourd'hui et le diagnostic officiel de votre épilepsie a été posé lorsque vous aviez 8 ans. Comment cela s'est passé, Juliette ?
Donc non, ce n'est pas quand j'avais 8 ans, c'était il y a 8 ans.
Il y a 8 ans, pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Non, donc en fait, je faisais des crises partielles, mais sans le savoir, depuis mes 10-11 ans, qui fait que j'entendais des voix. C'était mes crises partielles étaient des hallucinations auditives. Mais j'en ai jamais parlé à mes parents parce que je pensais que c'était parce que la fatigue, le stress, enfin, ça m'a jamais inquiété. J'en ai fait de plus en plus souvent, de plus en plus longue et jusqu'à mes 21 ans où je trouve ça quand même assez bizarre. Donc j'en ai parlé à mes parents et heureusement un matin. Et dans cette même journée, j'ai fait du coup 4 crises partielles. Apparemment, pendant ces temps-là, je faisais des bruits de déglutition. Ma main gauche bougeait, mais ça, moi, je ne me rendais pas compte. Et j'ai fait du coup une convulsion le soir même. Donc, on a appelé les pompiers. Et c'est comme ça qu'on a découvert que j'étais épileptique depuis des années. Mais c'est à mes 21 ans, en fait, qu'on l'a découvert.
Alors, restez avec nous, bien évidemment, Juliette. Je voudrais faire réagir le professeur Moustapha Ndiaye. Les hallucinations auditives dont parle Juliette, c'est quelque chose de fréquent, ça, professeur ?
Il faut savoir que toutes les hallucinations ne sont pas de nature épileptique. Ça, c'est la première précision à apporter. La deuxième précision à apporter, c'est que l'hallucination, certaines hallucinations, que ce soit des hallucinations visuelles, auditives en particulier, peuvent être une manifestation épileptique. Pour peu que cette manifestation, bien entendu, soit stéréotypée et s'intègre dans un contexte très précis.
Juliette, vous avez donc été suivie, vous, à l'hôpital de Dieppe. Concrètement, comment s'est passé ce suivi ? Est-ce que c'était contraignant ? Racontez-nous un peu tout ça.
Non, alors, quelque part, quand j'ai su que j'étais épileptique, j'étais rassurée. Alors, ça a duré quelques temps seulement, mais le fait d'entendre des voix, je me demandais quand même, est-ce que j'étais folle ? Est-ce que je rêvais ? Enfin, voilà. Donc, j'étais rassurée, voilà, j'étais épileptique, j'avais quelque chose qui faisait ça, j'étais pas folle. Et donc, j'étais suivie par un neurologue. Bon, très bien, on a commencé les traitements. On a commencé un premier traitement, le Keppra, on a vu que ça fonctionnait pas, et on a rajouté du Lamictal, ça fonctionnait pas. Donc j'ai testé comme ça plusieurs médicaments, plusieurs cocktails de médicaments en changeant les doses, et en fait ça fonctionnait pas. Je faisais toujours autant de crises, pas forcément des crises généralisées, des convulsions, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai de la chance à ce niveau-là, mais des crises partielles, donc mes voix, j'en entendais régulièrement, c'était à peu près une quinzaine par mois. Et donc c'est au bout de 3 ans que mon neurologue du coup de base m'a dit que j'étais pharmacorésistante, donc c'était pas la peine de continuer comme ça à chercher, et il m'a envoyé voir une neurologue plus spécialisée sur l'épilepsie. Et du coup c'est comme ça et après que j'ai pu rentrer dans un parcours pour une opération.
Et alors cette chirurgie, l'acte chirurgical, en quoi il consistait et pour quel résultat finalement ?
Alors, on a pu voir que c'était... Donc, quand je suis arrivée dans ce nouvel hôpital avec cette neuro qui me suit toujours, elle a vu avec les IRM que c'était mon hippocampe gauche dans le cerveau qui était touché. Donc, c'était cette partie-là qui réagissait, en fait. Et donc, elle m'a dit que cet hippocampe pouvait être retiré. Au niveau chirurgical, ça se faisait maintenant sans problème. J'ai passé 3 ans à faire des tests, par contre, pour voir... Dans quel état, entre guillemets, je serai après l'opération avec un morceau de cerveau en moins et puis un bout de cerveau qui gère quand même pas mal de choses à l'intérieur, en fait. Et donc, j'ai passé plusieurs tests qui, au final, m'ont dit oui, je pouvais y aller, alors avec des séquelles, hein, en connaissance de cause, mais je pouvais y aller. Et je me suis fait opérer, du coup, il y a 2 ans, c'était en mai 2018, et j'ai passé 1 an sans crise, qui, du coup, était du jamais vu depuis des années. Et j'ai juste fait une convulsion et une crise partielle l'année dernière. On avait tenté de baisser le traitement, donc est-ce que c'est ça ou pas ça, ça on ne saura jamais. Et là, cette année, j'ai juste fait une crise partielle. Donc ça veut dire qu'en fait, ça reste quand même toujours sensible. J'ai toujours des courts-circuits, entre guillemets, qui se baladent à l'intérieur, mais pour l'instant, j'ai pas de zone assez sensible pour réagir encore. Mmh. Et je garde le traitement, c'est beaucoup mieux qu'avant, hein, effectivement, mais par contre, j'ai toujours le traitement, j'ai toujours, entre guillemets, quelques contraintes en attendant de voir ce que ça donnera.
Professeur Ndiaye, donc Juliette a été opérée, est-ce que ce type d'opération, vous pouvez les faire au Sénégal? C'est fréquent aussi pour les jeunes que vous suivez?
Non, la chirurgie de l'épilepsie, qui est une chirurgie très spécialisée, qui concerne un petit nombre de patients, n'est pas disponible au Sénégal et d'une manière générale en Afrique. Parce que c'est une chirurgie hyper spécialisée, elle n'est pas disponible. Mmh. Et malheureusement, lorsqu'on a des enfants, des personnes qui ont des épilepsies focales liées à ce genre de malformation, que ce soit une dysplasie corticale ou bien comme une dysplasie corticale ou autre, on a des difficultés pour les prendre en charge parce que ce n'est pas disponible.
Juliette, on parlait tout à l'heure avec le professeur de la stigmatisation. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été victime de stigmatisation? Et comment est-ce que vous vous êtes finalement adapté à la maladie?
Alors, j'ai de la chance au niveau de ma famille. Parce que, avec le site, la page association, je peux voir que certains ont des complications au niveau familial. Moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, que ce soit mes parents ou mes sœurs ou mon compagnon, dès le début, ils ont pris les choses comme ça et ils sont là si besoin, tout en sachant en rire de temps en temps aussi, c'est important. Et au niveau de mon travail, en fait, je suis éducatrice spécialisée et je travaillais de base avec des enfants. Donc j'ai fait des adolescents en foyer, des adolescents avec différents handicaps, maladies, telles de la myopathie, enfin, des trucs comme ça. Donc ça se passait bien avec les enfants. Le problème, c'est qu'il y avait certains actes comme les conduire, les porter, les choses comme ça qui devenaient dangereuses pour eux. Mon travail en soi, je pouvais le faire sans souci, mais ça devenait dangereux à ce niveau-là. Donc j'ai arrêté. Il y a 3 ans, j'ai arrêté ça, et ça fait du coup 3 ans que je suis AESH dans un collège. Donc j'accompagne des enfants aussi en difficulté, mais je suis toujours avec un professeur, en fait, qui fait que si jamais une convulsion, je peux sortir de la classe, le professeur il s'occupe de la classe, enfin, voilà, les enfants ne sont pas en danger. Mais c'est des complications à ce niveau-là. Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de conduire, donc ça veut dire déménager, ça veut dire des complications pour le boulot, c'est... Moi, j'étais partie, entre guillemets, des gens où l'épilepsie, au niveau des crises, je peux pas m'en plaindre, parce que même quand j'en avais beaucoup, c'était des voix. Donc, ça n'empêchait pas de continuer à faire ce que je faisais. Les convulsions, j'en ai pas fait beaucoup. Mais par contre, oui, c'est toutes les complications qui sont à côté, comme la conduite, comme certains boulots, comme je suis une jeune femme, hein, donc je pense aux grossesses, c'est compliqué. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour que ça, les gens ne voient pas. Et qui, au final, sont aussi encombrants pour nous, quoi.
Vous avez l'impression de plus être totalement maître de vos choix, finalement, et de votre vie, voilà, obligé de vivre en ville, pour les transports, des choses comme ça?
Voilà, c'est ça. C'est, en plus, moi, je suis une fille qui vient de la campagne pure et dure, on va dire. Et donc là, j'ai dû, quand j'ai commencé le suivi avec ma nouvelle neurologue qui m'a dit du jour au lendemain, on arrête de conduire, elle avait raison, hein. Mais je vivais dans une campagne, j'avais 30 minutes de route pour le boulot, donc déménager en ville. Après, ça se passe très bien, là où je suis, il n'y a aucun souci, mais Mais comment, j'avais en tête qu'une fois que je ferais quelques années sans crise, je repartirais comme ça, me mettre dans une campagne tranquille. Mais le fait de voir que j'ai toujours quand même quelques courts-circuits, que j'ai réussi à refaire une convulsion, que tout ça, bah là, les projets, c'est plus, oui, de m'éloigner du centre-ville pour être quand même avec une maison, un coin tranquille, mais garder les transports en commun pas loin, parce qu'il suffirait d'une crise, une absence, pour être bloqué un an. Mmh.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Juliette, pour ce témoignage. Très bonne journée à vous et merci vraiment du fond du cœur.
Pas de souci, merci.
Allez, au revoir, bonne journée. Professeur Ndiaye, Juliette parlait de l'inquiétude, justement, d'une future grossesse. Lorsque l'on est épileptique, quels sont les risques concrètement pour une grossesse ?
Il faut savoir que pour les femmes épileptiques, il est parfaitement légitime d'envisager une grossesse. Et la grande majorité peut mener cette grossesse à terme sans risque majeur. Cependant, il y a des précautions à prendre. Et ces précautions doivent être prises par le neurologue, par le gynéco-obstétricien, en amont de la grossesse. Il faut que cette grossesse soit préparée. D'abord par un meilleur équilibre de l'épilepsie. Et ensuite, voir si le traitement... Il faut savoir que tous les médicaments anti-épileptiques sont potentiellement tératogènes, certains plus que d'autres, mais il faudra que le neurologue, de concert avec le gynécologue, choisisse le médicament le moins tératogène et aux doses les plus faibles possibles. En plus, bien entendu, de prescrire de l'acide folique, ce que nous faisons quotidiennement chez nous, pour prévenir certaines malformations. Bref, si la grossesse est préparée, pour la plupart des femmes, la grossesse peut être envisagée et menée à terme sans risque majeur.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons d'épilepsie avec un autre invité, le professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre dans le service de neurologie à l'hôpital de Fan à Dakar, président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie et président de la Société sénégalaise de neurologie. Professeur Moustapha Ndiaye, selon les estimations, 70% des personnes vivant avec l'épilepsie pourraient bien ne pas subir de crise si leur état était correctement diagnostiqué et traité. Pourquoi ces problèmes de diagnostic et de traitement?
Évidemment, ce sont les mêmes chiffres que nous avons chez nous. Malheureusement, les problèmes de diagnostic sont liés au fait que, en particulier dans les pays dits en développement, qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, encore moins de spécialistes en neurologie et en épileptologie. Et nous l'avons abordé tout à l'heure en disant que, par exemple, l'épilepsie, ce n'est pas seulement les manifestations convulsivantes, qu'il y a d'autres manifestations plus subtiles, que ce soit des manifestations sensitives, des manifestations comportementales, sensorielles ou autres, donc beaucoup plus subtiles, beaucoup plus difficiles à diagnostiquer. Il est évident que quand il y a moins de neurologues, moins de personnes qui s'intéressent à ce sujet, les difficultés diagnostiques seront là.
Et on sait que, pareil, près de 3/4 des personnes affectées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, eh bien, ne bénéficient pas du traitement dont elles ont besoin. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que ce sont des traitements trop chers? Et quelle est la situation au Sénégal, finalement?
Mais c'est lié au déficit de neurologues.
Uniquement ça?
En Afrique, principalement en Afrique, d'une manière générale, il y a un neurologue pour 500 000 habitants. Dans certains pays même, c'est un neurologue pour 1 million à 2 millions d'habitants. Il est évident que dans ce contexte sanitaire, les patients épileptiques auront des difficultés à rencontrer le médecin agréé pour pouvoir faire correctement le diagnostic. Ici ajoute, bien entendu, la difficulté d'accès aux médicaments. Parce que les médicaments anti-épileptiques ont un certain coût pour une maladie chronique pour une population qui, pour l'essentiel, vit en dessous du seuil de la pauvreté, il est évident qu'il peut y avoir des soucis.
Et bien justement, on a un auditeur qui... Oui, professeur,
pardon. Récemment, au Sénégal, il y a eu une polémique au sujet de la disponibilité du phénobarbital, qui a disparu du marché depuis 4-5 mois, et qui est le médicament qui est utilisé par la grande majorité de nos patients.
Mmh. Mais alors, que se passe-t-il justement pour ces patients sans traitement ? Est-ce que la maladie peut dégénérer, les crises devenir plus fréquentes ? Quelles sont les conséquences pour ces patients ?
Les conséquences sont perceptibles. C'est une augmentation de la fréquence des crises qui peut mener à des situations gravissimes en termes de décès ou parfois même en termes de séquelles neurologiques, séquelles psychiques, séquelles comportementales. Les conséquences sont gravissimes si la prise en charge n'est pas faite, évidemment.
Alors, on a bien compris que vu les complications pour avoir accès au traitement, il est important d'insister sur la prévention. Qu'est-ce qui est fait au Sénégal en termes de prévention ?
D'abord, la communication. Parce que dans notre pays, on a identifié de façon claire que les principales causes de l'épilepsie, c'était les anomalies de la grossesse et de l'accouchement, les infections et les traumatismes. Donc, toute notre stratégie depuis une vingtaine d'années à travers la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, c'est de pousser les pouvoirs publics à améliorer les conditions de santé pour que les femmes épileptiques, pour que toutes les femmes puissent mener des grossesses et accoucher dans des conditions de sécurité suffisantes pour elles-mêmes et pour les autres. Et si nous améliorons cet environnement, c'est-à-dire la santé de la reproduction, si nous luttons contre l'insalubrité et les infections dans nos villes et dans nos campagnes, il est évident que dans quelques années, on sentira de façon très sensible, il y aura une diminution de l'incidence de la maladie épileptique. Donc c'est des politiques de santé publique qu'il faut initier et maintenir.
Alors, on parlait des croyances populaires en début d'émission. Vous nous disiez qu'elles étaient en train de reculer, justement, en raison de cette sensibilisation. Néanmoins, si on est loin de la capitale, en brousse, qu'il n'y a pas de neurologue, pas de médecin spécialisé, est-ce que les patients peuvent être tentés d'aller voir des praticiens et qu'on retourne dans ce système de croyances, finalement ?
Bien entendu, dans certaines zones où il n'y a pas de personnel de santé, même pas de paramédical. Il est évident que pour ces populations, la seule alternative qui s'offre à elles, c'est de consulter le praticien. Mais
c'est le évident, serpent qui se mord la queue, comme on dit vulgairement.
Oui, oui.
Et ça, il faut donc former des neurologues, c'est ça que j'imagine. C'est là-dessus qu'il faut insister.
Mais au-delà des neurologues, c'est ce que nous faisons à travers la Ligue sénégalaise. C'est de former même les paramédicaux au diagnostic et à la prise en charge des épilepsies. Parce qu'en zone rurale, et même dans les milieux sur, il n'y a pas de médecin. Il n'y a que les paramédicaux. Donc il faut aller vers eux. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons de faire. Aller dans les villages, dans les principales régions du Sénégal et former les paramédicaux au diagnostic et à la prise en charge de l'épilepsie de façon vraiment très simple et accessible.
Professeur Moussa Fandiaï, on va passer aux questions des auditeurs sous forme de notes vocales sur WhatsApp. Avant cela, je rappelle quand même qu'il ne s'agit nullement de consultations radiophoniques, c'est uniquement des conseils et certaines réponses à des questions qui reviennent souvent. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, professeur Moussa Fandiaï, avec Awa, qui nous a laissé une note du Nord-Pas-de-Calais en France.
Bonjour Igor, bonjour à votre invité également. Je m'appelle Awa. J'ai 25 ans, je vous envoie ce message depuis le Nord-Pas-de-Calais. Je voulais savoir si le fait d'avoir été épileptique pendant l'enfance peut laisser des séquelles telles que des céphalées, car j'en ai très souvent et je voulais savoir si c'est une conséquence de l'épilepsie ou pas. Merci et très bonne journée à vous.
Alors, professeur Moustapha Ndiaye, que peut-on répondre à Awa ?
A priori, non. Je ne vois pas le lien qu'il y a entre une épilepsie de l'enfance et ces céphalées qui sont apparues à l'âge. A priori, non. Mais s'il y a un conseil à donner, c'est de consulter votre neurologue qui saura faire la part des choses.
Non, et ça, dans le Nord-Pas-de-Calais, elle devrait pouvoir trouver un neurologue. Allez, on enchaîne avec une question de Jerry qui nous a laissé un message depuis Haïti.
Bonjour Hugo, bonjour docteur. Je suis Jerry et j'écoute l'émission depuis Cap-Haïtien, Haïti. En fait, ma mère est épileptique depuis plus de 20 ans. J'ai grandi en la voyant faire des crises une ou deux fois par semaine. Ce n'est que tout récemment, je dirais 3 ans, à défaut de consulter un médecin qui est spécialisé dans le traitement de cette maladie, on a consulté un psychiatre. Puisque après plusieurs crises successives, elle peut passer plusieurs jours à délirer. Donc le psychiatre l'a mis sur du carbamazépine 2 fois par jour tous les jours. Son état s'est vraiment amélioré. Elle peut faire une crise, mais elle a oublié de prendre ses médicaments. Du coup, ma question est de savoir si le fait de prendre ce médicament 2 fois par jour tous les jours ne va pas poser un autre problème de santé sur le long terme. Ensuite, j'aimerais savoir, est-ce que cette maladie est héréditaire? Merci.
Alors, professeur Ndiaye, Jerry attend votre réponse.
La carbamazépine est un traitement anti-épileptique et comme tous les autres, il peut avoir des effets indésirables plus ou moins importants. Mais si votre neurologue a choisi ce médicament et l'a prescrit à votre maman, c'est parce qu'en faisant la balance entre le bénéfice et le risque, il a estimé que les avantages, et d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, sont largement supérieurs. Donc il n'y a pas de problème. Votre maman doit continuer à prendre son médicament sur le long cours, aussi nécessaire que possible, parce que c'est cela l'intérêt, son intérêt. La deuxième question, est-ce que c'est héréditaire?
Voilà. Ouais.
Il y a des facteurs génétiques, mais cela ne veut pas dire que, par exemple, de façon longitudinale, verticale, votre parent a l'épilepsie, vous l'aurez. Non. Il y a des familles où il y a une prédisposition génétique. Et cette prédisposition génétique peut être suffisante pour déclencher la maladie dans la famille, chez certaines personnes, ou insuffisante en ce moment. S'il y a des facteurs exogènes, notamment une agression, un traumatisme, une infection, en tout cas, un autre facteur exogène, sur des personnes prédisposées, ça peut favoriser le développement d'une épilepsie. Mais ce n'est pas vraiment une transmission directe de papa à maman, de maman à enfant, non. En tout cas, même s'il y en a, c'est des formes très rares d'épilepsie, où il y a une transmission, c'est des épilepsies autosomiques qui se transmettent de génération en génération, mais c'est vraiment une forme très, 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 très rare.
Je rebondis sur les propos de Jerry, sur les traitements. Vous, de quel traitement vous disposez au Sénégal, professeur?
Au Sénégal, on dispose de ce qu'on appelle les médicaments de première et de deuxième génération. C'est-à-dire, et les principaux anti-épileptiques qui sont utilisés dans la prise en charge de l'épilepsie, en particulier la carbamazépine, en particulier le valproate de sodium, le phénobarbital qui reste le médicament le plus prescrit du fait de son accessibilité financière, la lamotrigine, l'étoxifène, tous ces médicaments sont disponibles au Sénégal. Mais il y a les médicaments dits de troisième génération, c'est-à-dire les médicaments qui sont apparus sur le marché ces dix dernières années, qui ne sont pas encore disponibles à Dakar, mais on peut l'obtenir par une prescription médicale à travers certaines pharmacies de la ville. Mais ces médicaments n'ont pas d'AMM dans notre pays.
Donc d'autorisation de mise sur le marché. Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi cela?
Pour des raisons administratives sans doute, et puis pour des raisons commerciales, parce que c'est des médicaments qui coûtent quand même très cher. Les laboratoires, quand ils décident de venir dans un pays, dans un continent, mettent en balance l'intérêt commercial. Est-ce qu'il y a un intérêt commercial pour ces laboratoires à les amener en Afrique? C'est vraiment la grande question.
Mais est-ce que ces nouveaux médicaments, donc pas encore accessibles au Sénégal, provoquent moins d'effets secondaires? C'est une partie de leur intérêt, c'est ça?
Théoriquement, ces médicaments auraient moins d'effets indésirables, mais il faut être extrêmement prudent parce que ces médicaments sont nouveaux. Nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir apprécier tous les effets indésirables potentiels. Les médicaments que je viens de citer, que ce soit le phénobarbital ou le valproate de sodium, la carbamazépine, ont 50 à plus de 100 ans d'âge. Donc les praticiens les connaissent suffisamment. Pour les nouveaux, oui, ils auraient moins d'effets indésirables, même s'il est avéré qu'ils ne sont pas plus efficaces que les anciens médicaments, mais il faut être extrêmement prudent parce qu'on a encore besoin de recul pour apprécier.
Mais justement, quand on lit un petit peu dans la littérature, on voit que les médicaments, les anciens médicaments, peuvent provoquer des effets secondaires assez variés, hein, là, de la fatigue, la somnolence, tremblements, troubles cognitifs ou de l'humeur. Ça, c'est quand même compliqué. Est-ce que c'est fréquent? Quels sont les retours de vos patients?
Oui, tous les médicaments, on sait, le médecin qui va le prescrire, il sait que potentiellement, il y a un certain nombre d'effets indésirables. Mais c'est de la responsabilité du médecin de voir, par exemple, comment faire pour minorer ces effets indésirables. Je vous donne l'exemple du phénobarbital, par exemple, qui est le médicament le plus largement prescrit en Afrique. Les recommandations, c'est 3 à 5 mg par kilo par jour. Au Sénégal, en Afrique, lorsque nous traitons nos malades avec le phénobarbital, nous donnons entre 1 et 2 mg par kilo. Cela nous permet d'être efficace tout en minorant les effets indésirables. C'est la même chose pour le valproate de sodium, c'est la même chose pour la carbamazepine. Nous évitons de donner les doses les plus importantes, notamment la limite supérieure. On donne les doses les plus faibles. Cela permet tout en restant efficace de minorer les effets indésirables.
Le Juliette, tout à l'heure, que l'on a entendu, parlait de pharmacorésistance dans son cas. Est-ce que ça, c'est fréquent, pareil, au Sénégal?
Oui, il y a un certain nombre, environ 20 à 30% des épileptiques qui sont pharmacorésistants. Maintenant, ils sont pharmacorésistants, il faudra leur proposer autre chose.
Mais parce qu'ils n'ont pas bien pris leur traitement, ou comme on explique, c'est pharmacorésistant, justement?
La pharmacorésistance, c'est des patients qui prennent les médicaments qu'ils doivent prendre aux bonnes doses durant un certain nombre de durant une durée suffisamment acceptable, et malgré tout, il y a une persistance des crises. Donc il faudra que, avant de parler de pharmacorésistance, il faut vraiment que la prescription soit bien faite, que le ou les médicaments soient bien pris sur une durée suffisamment longue pour qu'on puisse parler de pharmacorésistance.
Allez, on repasse à notre standard sous forme de note vocale, et c'est Adziba de Dakar au Sénégal qui vous pose une question, professeur.
Bonjour Eko, bonjour à l'équipe de Priorité Santé et à votre invité. Je me prénomme Adziba, j'ai 29 ans et j'habite à Dakar. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis épileptique depuis mes 16 ans. Et depuis lors, j'ai suivi beaucoup de traitements et ça fait 5 ans que je suis à la dépakine chrono avec laquelle je suis plus stable. J'avoue que tout le temps, j'ai peur d'être seule avec les enfants car je n'ai jamais de signes précurseurs de mes crises et donc je les ai souvent n'importe où et n'importe quand. Donc mes 3 préoccupations sont les suivantes. 1. Guérit-on vraiment de la maladie? Et est-ce qu'il y a des traitements plus efficaces que la dépakine avec moins d'effets secondaires, comme lors de la grossesse où j'ai eu l'expérience de la perte de mon premier enfant avec les crises? 2. Est-ce qu'il y a un moyen pour me permettre d'anticiper les crises? Et 3. Avec mes crises et les traitements, j'ai perdu beaucoup de mémoire et j'oublie beaucoup. Et d'ailleurs, cela a réellement impacté sur mes études et ma carrière, car il fallait surtout éviter les facteurs de stress. Donc, y a-t-il aussi un moyen efficace pour stopper cela? Merci beaucoup et bonne continuation.
De nombreuses questions pour vous, professeur, de la part d'Adziba. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Cette patiente prend un médicament depuis un certain nombre d'années. Manifestement, si ce médicament lui a été prescrit, c'est parce qu'il est adapté à son type d'épilepsie. Il est adapté à son type d'épilepsie. Il faut qu'elle voie avec son neurologue s'il y a des possibilités éventuellement de changer ce médicament ou pas, en tout état de cause. Le valproate de sodium, comme tous les médicaments anti-épileptiques, sont efficaces. Cela dépend maintenant du type d'épilepsie. Et chaque épilepsie, répond plus ou moins bien à tel autre antiépileptique. Il y a même des antiépileptiques qui peuvent aggraver certains types d'épilepsie. Donc si votre neurologue a choisi de vous mettre le valproate de sodium, malgré que vous soyez une femme, malgré qu'il connaisse certainement les effets tératogènes de ce médicament, c'est peut-être parce que votre type d'épilepsie, votre épilepsie est adaptée à ce médicament. Bien entendu, il est évident qu'une alternative peut être trouvée, notamment avec les médicaments de deuxième ou de troisième génération. Mais je pense que concrètement, il faut avoir voir ça avec votre médecin.
Alors,
Oui,
j'allais reprendre la question de Adiba. Y a-t-il des moyens d'anticiper les crises?
Le traitement anti-épileptique, l'hygiène de vie, c'est pour anticiper les crises. Si on vous a prescrit un médicament, il faut que ce médicament, que vous continuiez à le prendre régulièrement. Il faut que vous ayez une hygiène de vie. Ces deux facteurs conjugués, bien entendu, ont pour objectif de contribuer à éviter la survenue des crises. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou pas.
Alors, elle n'est pas là pour répondre, malheureusement.
Et la troisième question, c'est les troubles de la mémoire.
Voilà.
Et c'est important. Nous l'avons dit tout à l'heure, beaucoup de médicaments anti-épileptiques peuvent induire des troubles de la mémoire et en particulier des troubles d'apprentissage. Et le moyen de les contourner, en tout cas de les minorer, c'est, j'insiste là-dessus, c'est l'hygiène de vie et un sommeil, en particulier un sommeil de qualité. L'épileptique doit dormir et bien dormir. À défaut d'éliminer totalement les troubles de la mémoire, cela contribue à les minorer et à vous permettre peut-être de mieux appréhender votre vécu quotidien. Voilà les quelques réponses que j'avais à apporter à cette interpellation.
Et je vous en remercie, professeur Moustapha Ndiaye. Merci d'avoir répondu à tous nos auditeurs. Les questions étaient nombreuses, on ne peut malheureusement pas toutes les passer, car le temps file et on a un deuxième sujet à aborder en fin d'émission. Je vais vous remercier, professeur Moustapha Ndiaye. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre dans le service de neurologie à l'hôpital de Fan, à Dakar, président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie et président de la Société sénégalaise de neurologie. Bonne journée à vous, professeur. Bonne journée à Dakar et merci. Priorité santé, suite et fin. Nous sommes à présent avec le docteur Nicolas Barizien, chef du service de réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne. Un hôpital qui a ouvert le programme Réhab Covid, une consultation pour prendre en charge des malades du Covid-19 qui souffrent encore de symptômes plusieurs semaines après leur guérison. Docteur Nicolas Barizien, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce programme Réhab Covid est un accompagnement multidisciplinaire que vous avez mis en place il y a 4 ans dans l'établissement, mais à l'origine, il était destiné aux patients en oncologie pour les préparer avant une intervention chirurgicale. Comment est donc venue l'idée d'y accueillir les patients touchés par le coronavirus ?
Eh bien, les patients qui souffrent de symptômes post-Covid, c'est-à-dire soit jamais de période de rémission, c'est-à-dire qu'ils ont été guéris de leur infection par le virus et la fièvre a disparu, et puis gardent des symptômes de fatigue, de toux, d'essoufflement. Soit, et ce dont on a beaucoup de patients en ce moment, c'est plutôt des patients qui ont l'impression d'avoir guéri, et au moment où ils se remettent à prendre une activité complètement normale, voire une activité sportive, les symptômes réapparaissent. Donc ces patients-là, ils sont bilantés par les collègues qui les ont vus aux urgences, et puis on ne retrouve pas de traces du virus, on ne retrouve pas de traces d'infection, donc ils sont guéris de l'infection virale au Covid. Sauf que comme ils ont toujours des symptômes, ils ont un trouble qui s'apparente à un trouble fonctionnel. Mmh. Alors ça, c'est mon métier, d'évaluer la fonction et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne.
Alors, on va juste rappeler, docteur Barbizien, pardon de vous interrompre, que en fait, ça ne concerne pas les patients gravement touchés par le Covid-19 et qui ont été admis en réanimation. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement, ces patients qui viennent vous voir, justement ?
Alors, justement, oui, c'est des patients qui ont fait un Covid, on va dire, une forme modérée, bénigne à la maison. Ils ont eu quelques jours de fièvre, ils ont eu des symptômes, ils ont été fatigués pendant quelques semaines. Et puis, ils n'ont pas besoin de passer en hospitalisation, pas besoin d'être en réanimation. Mais ils n'arrivent pas à reprendre une vie normale. C'est-à-dire que dès qu'ils retournent au travail, ils sont fatigués, ils sont essoufflés. Ils n'arrivent pas à monter 2 étages d'affilée sans être obligés de s'arrêter. Ou ils ont l'impression de faire une journée qui était une journée normale, ils rentrent à la maison, ils sont obligés de se coucher pour dormir. Ils ont une oppression thoracique, ils ont des maux de tête, et donc ils ont l'impression de ne pas être guéris.
Et de refaire peut-être un épisode de Covid, non ?
Alors, la première crainte qu'ils ont, c'est effectivement de faire une rechute de Covid, mais chez tous ces patients, à chaque fois qu'on leur a fait un diagnostic de PCR pour voir s'il y avait encore du virus dans leur rhinopharynx, on n'en a jamais retrouvé.
Alors, vous travaillez avec des diététiciens, des kinésithérapeutes, des psychologues, dans quel but et comment se passe la prise en charge finalement ?
Alors, l'objectif, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne plus comme avant. Certains patients ont perdu énormément de poids pendant leur période de Covid aiguë. Ils ont perdu 6 à 10 kilos. Donc souvent, malheureusement, on sait que c'est de la masse musculaire. Donc ça, on essaye d'évaluer avec les diététiciens quelle est la quantité de masse musculaire qui a été perdue et est-ce qu'il faut les accompagner pour qu'ils reprennent cette masse musculaire. Est-ce que le symptôme premier, c'est une dérégulation de leur respiration, c'est-à-dire qu'ils ont une respiration qui est inefficace ? Ils font ce qu'on appelle de l'hyperventilation. Et donc ça provoque des symptômes et ça se réduit par de la kinésithérapie. Ou est-ce que c'est des gens qui sont désadaptés à l'activité physique de base, hein, ça s'appelle du déconditionnement à l'effort. Et ça, à ce moment-là, on peut les orienter vers une reprise d'activité chez un kinésithérapeute pour faire masse musculaire, réentraînement cardio-respiratoire.
Alors, vous avez certains patients donc, qui souffrent d'anxiété, voire de dépression. On parle même pour certains du syndrome de post-traumatique. Est-ce que ça, c'est fréquent ?
Alors, tous ces patients ont des symptômes parce qu'aussi, ils ont un état anxieux un petit peu plus important que chez d'autres. Et donc, les symptômes sont plus présents. Il y en a certains qui vont partir du principe que ces symptômes vont disparaître, et effectivement ils vont disparaître au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ces patients sont assez anxieux parce que la plupart du temps ils ont vécu le Covid, ils ont vécu...
Mais c'est anxiogène, il faut le dire, on l'a tous vécu de façon anxieuse.
Complètement, ils l'ont vécu souvent dans un cadre familial avec soit des parents, soit des enfants qui pouvaient potentiellement être malades, donc ça a été assez compliqué. Et comme c'est des gens actifs, ils ont aussi, pour certains, eu l'angoisse de leur activité professionnelle qui pouvait être remise en cause. Donc, certains conservent une anxiété de base qu'il est nécessaire de prendre en charge, déjà pour leur donner une explication. Vos symptômes, on les connaît, ils sont dus à ça, ou des fois, on les connaît pas. Mais quand on les connaît, c'est très rassurant de savoir, voilà, c'est pas dans ma tête, j'invente pas les choses, j'ai des symptômes, ils sont reconnus, et puis quand il y a besoin, on fait une aide à un accompagnement psychologique avec des choses qu'on connaît qui sont relativement simples, c'est soit de la thérapie comportementale et cognitive, soit des EMDR quand il y a un syndrome post-traumatique. Hein, imaginez quelqu'un dont la mère ou le père est décédé pendant le Covid, qu'éventuellement ses enfants...
Ouais. Il faut un suivi psychologique. Je vous coupe, docteur Nicolas Barizien, je suis désolé, on arrive déjà au terme de cette émission. En tout cas, voilà, c'est un service Réhab Covid à l'hôpital Foch de Suresnes qui suit ses patients justement victimes du Covid-19. Merci beaucoup docteur. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, préparé par Assetou Samaké Ophélie Lassène. Demain nous parlerons d'infidélité. Comment se reconstruire quand on pense avoir été trahi ? Peut-on pardonner ? Si oui, comment ? Est-il possible de restaurer la confiance ? On voit ça demain. Bonne journée à tous et à demain.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounou Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounou Assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.